nouvelle fois heureux de nous retrouver dans la maison du Seigneur pour pouvoir partager sa parole. C'est une méditation qui sent l'hôpital, parce que je l'ai préparée à l'hôpital pendant que ma femme était dans son lit. Donc j'avais un peu de temps, à tel point que quand je suis rentré chez moi, j'avais toutes mes notes, je me suis rendu compte que j'en avais plus ou moins pour une heure et demie. Donc je ne vais pas vous faire subir tout ça, j'ai dû la rétrécir. Je vais vous parler d'hommes qui sont face à leur destin, comme nous sommes tous face à notre destin. Et je vais vous parler de deux hommes qui ont été face à des choix, qui ont choisi leur camp. Et comme je vous ai dit, comme je l'ai préparé, j'avais choisi encore deux autres hommes, donc il y avait quatre hommes. Et comme ce sera trop long, peut-être que ce sera le sujet d'une prochaine méditation, je vais voir. Donc je ne vous en parlerai que deux ce matin. Nous allons lire dans l'évangile de Marc au chapitre 10e, et nous lirons à partir du verset 17. « Comme il partait, un homme accourut se jeta à genoux devant lui et lui demanda, « Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?»« Pourquoi m'appelles-tu bon ?» lui répondit Jésus. « Personne n'est bon sinon Dieu seul. » Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. Maître, répondit l'homme, tout cela je l'ai appliqué depuis ma jeunesse. Jésus posa sur cet homme un regard plein d'amour et lui dit, il ne te manque qu'une chose. Va. « Vends tout ce que tu possèdes, donne-le, produit de la vente aux pauvres, et tu auras un capital au ciel. Puis viens et suis-moi. » En entendant ces paroles, l'homme s'assombrit et s'en alla tout triste, car il était très riche. Jésus parcourut du regard le cercle de ses disciples, puis il leur dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Cette parole le surprit, mais Jésus insista, « Oui, mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés, et ils se demandaient entre eux, « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus le regarda et leur dit, « Aux hommes, c'est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Jésus est souvent interpellé par des passants, nous le voyons souvent. Des gens de toutes sortes l'interpellent, des pauvres, des riches, des religieux, des gens en bonne santé, des malades, des prostituées, toutes sortes de gens accourent vers Jésus, lui posent toutes sortes de questions. Et aujourd'hui, c'est un jeune homme qui est bien de sa personne qui interpelle Jésus. Comme nous le voyons dans l'histoire, nous remarquons que cet homme me semble assez pieux. C'est un homme qui recherche Dieu, il serait religieux. Il y a encore des jeunes qui recherchent Dieu. Si notre assemblée, malheureusement, n'en comporte pas, il y a d'autres assemblées où les jeunes sont très bien représentés. Donc, il ne faut pas dire que les jeunes ne recherchent pas Dieu. Il y a encore une catégorie de jeunes qui aiment la présence du Seigneur. Et ce jeune garçon était troublé dans sa recherche et il se jette aux pieds de Jésus en l'appelant « Bon maître, que dois-je faire ?» D'où l'étonnement de Jésus qu'on l'appelle bon. Et cet homme désire en savoir plus sur l'assurance de son salut. Rien de plus louable que cette attitude de recherche. Et Jésus lui récite les 10 commandements. Bien sûr, ce n'est pas par hasard que Jésus commence par cela. Il sait que tout homme est pécheur et qu'il est dans l'impossibilité de les observer tous dans leur intégralité. Bien que ce jeune homme avoue, « Seigneur, je les ai observés depuis toute mon enfance. » Oh, il a sûrement essayé d'observer ces enseignements. Il a fait tout son possible pour paraître juste devant Dieu, Mais s'il était vraiment honnête, il pourrait dire, Seigneur, j'ai essayé. Au lieu de dire, je les ai observés, j'ai essayé de les observer pendant toute ma jeunesse, mais je n'y arrive pas dans son intégralité. Et ce jeune homme-là, malgré toute sa religiosité, a l'air de dire qu'il n'est pas satisfait. Il n'est pas satisfait de sa religion, quelque part. J'ai besoin d'autre chose, l'a-t-il l'air de nous dire, mais je ne sais quoi. Il me faut une relation plus profonde, plus intense avec mon Dieu que la loi de Moïse que j'essaie d'observer tant bien que mal. Peux-tu, Seigneur, m'indiquer le chemin à suivre? Oui, tout cela, ce n'est qu'une devenu qu'une religion, ces préceptes que Moïse, cette loi de Moïse est devenue une religion et non pas une relation. Quand nous voyons l'attitude des religieux de l'époque de Jésus, nous voyons très bien que ce sont des religieux, des intégristes, des fanatiques, plutôt que des gens qui ont une relation profonde avec leur Dieu. Et Dieu nous appelle à quitter ce qui est vraiment religieux. Et frères et sœurs, nous qui nous targuons avec fierté d'être protestants, c'est pas cela que le Seigneur nous demande d'être. Le Seigneur ne va pas nous dire « As-tu été protestant dans ta vie ? As-tu été catholique ? As-tu été orthodoxe ?» C'est pas cela qu'il va nous poser comme question. Il va nous poser la question, comme je l'ai déjà dit, « Es-tu né de nouveau ?» C'est cela qu'il va nous poser comme question. Et bien entendu, bien parfois, nous enfonçons, même nous, chrétiens évangéliques, dans une certaine religiosité et que nous perdons cette relation avec notre Dieu. Car Jésus n'est pas venu comme fonder toutes sortes de religions issues du christianisme. Jésus est venu rétablir la relation que l'homme avait perdue avec son Dieu lors de la chute. Frères et sœurs, le chrétien ne peut pas se contenter d'une religiosité, d'accomplir certains actes religieux. On lit sa Bible, on prie, on fait de bonnes œuvres, on essaye d'être bon. Ce n'est pas cela que le Seigneur nous demande ce matin. Notre religiosité, tout comme ce jeune homme, nous donne-t-elle vraiment l'assurance pour l'éternité? C'est la question que nous devons nous poser. Si nous vivons une religiosité plutôt qu'une relation avec notre Dieu. Et ce jeune homme, il a bien compris qu'il y avait quelque chose de plus qu'il devait avoir comme relation avec son Dieu. Et ce que j'aime en Jésus, dans son attitude, c'est qu'il regarde ce jeune homme avec amour. C'est un regard d'amour qu'il lance à ce jeune homme. Et soyons sûrs que le Seigneur ce matin nous lance un regard d'amour quand nous nous approchons de lui. C'est toujours avec amour qu'il nous regarde. Il aime que nous nous approchons de lui. Il aime la sincérité avec laquelle le jeune homme s'approche, car ce jeune homme est en recherche d'une solution à ce problème qui le taraude. Oui, pourrait dire Jésus, tu as suivi sincèrement la loi de Moïse, et tu n'es pas comblé, tu n'es pas satisfait dans ta vie. Et peut-être aussi, nous pourrions nous dire, Seigneur, je ne suis pas vraiment satisfait. Pourtant, on m'avait dit que chez les protestants, c'est l'idéal. C'est la meilleure de toutes les religions. Et c'est vrai que ma longue expérience dans la vie chrétienne m'a fait entendre des énormités du haut d'une tribune, quand j'entendais dans certains milieux dire que c'était les pentecôtistes les plus près du Seigneur qui étaient la seule vraie religion, et j'en passe et des meilleurs, et je suis certain qu'il y a d'autres chrétiens dans d'autres dénominations qui disent la même chose. Ça me fait hérisser les poils quand j'entends des choses comme cela. Et le Seigneur lui dit, je vais te proposer de vivre une vie épanouie et remplie. Rempli de joie, rempli de paix, rempli d'une relation profonde avec ton Dieu. Car il y a des choses qui te tiennent liées. Et nous devons peut-être regarder ce qui nous tient vraiment liés dans notre vie, qui nous empêche d'être vraiment heureux dans notre vie chrétienne, qui nous empêche peut-être de nous épanouir vraiment. Et quand tu seras délivré, tu verras ce que c'est vraiment la vraie liberté, la liberté des enfants de Dieu, comme on dit. Il te manque quelque chose d'important. Et ce garçon-là dit, quoi, Seigneur, dis-moi, car je veux vivre autrement. Et le Seigneur lui répond, ben voilà, vends tout ce que tu as et distribue-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. Waouh ! Mais ce n'est pas ça qu'il attendait. Hein. C'est la douche froide, vraiment, pour ce jeune homme. J'attendais une autre réponse, Seigneur. Non, Seigneur, pitié, dis-moi autre chose. Bien souvent, frères et sœurs, nous voudrions entendre de la part de Dieu ce que nous aimons entendre. Et quand Dieu nous donne une réponse qui n'est pas conforme à ce que nous aimons entendre, eh bien là, nous tiquons et on fait marche arrière, on se rétracte. Et on n'est plus d'accord avec le Seigneur. J'imagine, Seigneur, que tu m'aurais demandé n'importe quoi à faire. Faire un pèlerinage, aller à Bameux, par exemple, j'aurais été, même à genoux. J'aurais fait des sacrifices, j'aurais offert des brebis, des taureaux, tout ce que tu veux, mais pas ça. Sacrifier le patrimoine familial, est-ce que tu te rends compte? Non seulement tu n'imagines pas, mes parents, mes grands-parents ont trimé, ont travaillé, moi-même je travaille pour obtenir cette fortune, je me lève aux aurores, je me couche très tard, et tu me demandes de vendre tous mes biens, et non seulement ça, de les distribuer aux pauvres. Moi qui ai trimé et travaillé toute ma vie pour acquérir ces biens, tu me demandes de distribuer cet argent à ces fainéants qui sont au CPAS et qui ne font rien de leur journée pendant que moi je travaille. Mais le Seigneur, c'est une aberration, c'est pas ça que je veux, c'est pas ça. Jamais, Seigneur, je ne ferai ça. Non, c'est pas ça que je demande. Eh bien, pouvait dire Jésus, bien, tu préfères ta vie insatisfaite que de me suivre dans une vie de plénitude. Vous allez dire, mais le Seigneur n'aime pas les riches. Bon, c'est pas vrai, c'est pas cela. Cet exemple-là est que cet homme, ses richesses, c'était tout pour lui, c'était sa vie. Le Seigneur ne va pas vous demander de vendre tous vos biens, c'est pas cela qu'il faut comprendre. Mais il y a des gens, il faut savoir enlever ce qui nous retient, c'est cela, la leçon de ce matin. Qu'est-ce qui nous attache encore? Qu'est-ce qui nous empêche de jouir une vie profonde, une relation profonde avec notre Dieu? Et ce garçon partira tout triste dans sa triste vie de riche. Malheureusement, il ne peut pas choisir la vie éternelle de Dieu. La leçon pour nous chrétiens, voulons-nous une vie pleine? Une vie abondante. Regardons vraiment ce qui nous retient encore, qui prend toute la place dans notre cœur. Notre cœur est-il partagé? Jésus a-t-il la première place dans notre vie? C'est cela qui est important ce matin de savoir. Cet homme était face à sa destinée, face à son destin. Il devait choisir la vie que Dieu lui proposait, mais il l'a refusée. Et comme je vous ai dit, je vais vous parler d'un deuxième personnage qui a aussi eu la possibilité de faire un choix. Je veux vous parler d'un homme qui a eu un grand privilège de côtoyer Jésus, quand Jésus était en fin de vie, qu'il a même eu le triste privilège de le juger. Et cet homme a été tiraillé de toutes parts. Vous l'aurez compris, il s'agit de Pilate, le gouverneur romain. Les religieux lui amènent un condamné très embarrassant, Jésus, accusé à tort, bien sûr. Il n'y a que des mensonges dans l'acte d'accusation. Et Pilate est obligé de l'interroger, est obligé de choisir. Il est face à son destin. Nous lisons cela dans Jean chapitre 18. Jean chapitre 18. De chez Caïphe, on emmena Jésus au palais du gouverneur, c'était l'aube. Ceux qui l'avaient amené n'entrèrent pas eux-mêmes dans le palais pour conserver leur pureté rituelle et pour pouvoir manger ainsi le repas de la Pâque. C'est pourquoi Pilate sortit du palais pour les voir et leur demanda « De quoi accusez-vous cet homme ?» Ils lui répondirent « S'il n'avait rien fait, nous ne l'aurions pas livré. » « Reprenez-le, répliqua Pilate, et jugez-le vous-même d'après votre loi. » Mais ils lui répondirent « Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. » La parole pour laquelle Jésus avait annoncé quelle mort il allait subir devait s'accomplir. Pilate rentra donc dans le palais de justice et fit comparaître Jésus. « Es-tu le roi des Juifs ?» lui demanda-t-il. « Dis-tu cela de toi-même ou d'autres t'ont-ils dit cela à mon sujet ?» répondit Jésus. « Est-ce que je suis juif, moi ?» répliqua Pilate. « Ce sont ceux de ta nation et des chefs des prêtres qui t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Jésus lui répondit, « Mon royaume n'est pas dans ce monde. Si mon royaume appartenait à ce monde, mes serviteurs se seraient battus pour que je ne tombe pas aux mains des chefs des Juifs. Non, réellement, mon royaume n'est pas d'ici. Es-tu roi ?» reprit Pilate. « Tu le dis toi-même, je suis roi. Si je suis né... Et si je suis venu dans ce monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Celui qui appartient à la vérité écoute ce que je dis. Qu'est-ce que la vérité ? Lui répondit Pilate. Là-dessus, il alla de nouveau trouver les Juifs et leur dit, « En ce qui me concerne, je ne trouve chez cet homme aucune raison de le condamner. Il est d'usage que je vous relâche prisonnier à l'occasion de la fête de la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs ? » Ils lui répondirent en criant, « Non, pas lui, Barabbas. » Or Barabbas était un bandit. Une autre lecture dans Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27 au verset 19. Matthieu 27, 19. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit parvenir un message disant « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car cette nuit j'ai été fort tourmenté par des rêves à cause de lui. » Cependant, le chef des prêtres et les responsables du peuple persuadèrent la foule de réclamer la libération de Barabbas et l'exécution de Jésus. Le gouverneur prit la parole et redemanda à la foule, « Lequel de deux voulez-vous que je vous relâche ?»« Barabbas » crièrent-ils. Mais alors insista Pilate, « Que dois-je faire de Jésus qu'on appelle le Messie ?» Et tous répondirent, « Crucifie-le » Et enfin, reprit Pilate, « Qu'a-t-il fait de mal ?» Eux cependant criaient de plus en plus fort, « Crucifie-le !» Quand Pilate vit qu'il n'aboutissait à rien, mais qu'au contraire l'agitation de la foule augmentait, il prit de l'eau et devant la foule se lava les mains en disant, « Je ne suis pas responsable de la mort de cet homme. Cela vous regarde ?» Tout le peuple répondit, « Que la responsabilité de sa mort retombe sur nous et sur nos enfants. » Pilate soumet Jésus à un interrogatoire et s'aperçoit que rien n'est cohérent dans cet acte d'accusation. Il lui posera une série de questions. Par exemple, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus l'affirme qu'il est venu en tant que roi. Et une conversation s'amorce entre Jésus et Pilate sur la royauté. Mais il affirmera que son royaume n'est pas de ce monde, mais d'un monde meilleur. Et dans leur conversation, Jésus lui fait remarquer qu'il est venu pour rendre témoignage à la vérité. Tout le contraire des actes d'accusation, lui faisant remarquer que tout homme appartenant à la vérité écoute l'enseignement de Jésus, la vérité. Mais qu'est-ce que la vérité ? Telle est la question que pose Pilate. Qu'est-ce que la vérité ? Cette parole interpelle Pilate, lui, venant et baignant dans un monde de mensonges et de compromis. Il est politicien. Je ne vous apprendrai rien si nous voyons ce qui se passe depuis plus d'un mois dans notre vieille Europe et chez nos voisins. Nous savons, avec tout le respect que j'ai pour eux, nous savons que cette catégorie de personnes... Et nous le voyons encore aujourd'hui, ce sont des retourneurs de veste. Ils font et défont des alliances. Avant les élections, ils vous promettent une telle alliance, et après, vu le résultat, ils vous garantissent qu'ils vont changer d'alliance. des prometteurs de beaux jours, surtout en ces temps d'élection. Et ensuite, tout ce qu'ils ont promis tombe dans l'oubli. Et Pilate faisait partie de ces gens-là. Ce jeu politique que Pilate le connaît. Et la vérité n'est pas souvent de mise dans ce milieu. Et cet homme qui est face à lui, lui parle de vérité. Et cela le trouble. Où est-elle cette vérité? Et Pilate dit, qu'est-ce que la vérité? Mais il n'y a pas de réponse de la part de Jésus à cette question. Peut-être Jésus attendait-il que Pilate rebondisse et lui aille plus profondément dans cette question. Mais Pilate ne l'a pas fait. Il n'a pas insisté. Je pense que Pilate, à ce moment-là, a laissé passer la chance de sa vie. Car il avait la vérité devant lui. La vérité incarnée, oui, en chair et en os. Mais non, il a éludé la réponse. Quel dommage pour lui. Pilate est devant un choix cornélien. Va-t-il choisir de suivre la vérité? Et il s'adressera à la foule. Que voulez-vous que je fasse de lui? Et bien sûr, la foule, excitée par les religieux, crie « Crucifie! Crucifie cet homme, nous ne voulons pas !» Et à un moment donné, Pilate, il est vraiment tiraillé, nous le voyons dans ce récit, que Pilate n'était pas bien. Il essaie de monnayer sa libération. « Je vais le faire fouetter, et puis après on va le relâcher !» Comme ça, il ménage la chaîne et le chou, je l'ai flagellé, et vous allez être content, et après on le relâche. « Non, nous ne voulons pas de lui !» crie la foule. « Crucifie-le !» Quel dilemme pour cet homme. Il sait qu'il doit prendre une décision, il doit faire un choix. Quel sera-t-il ce choix? Je suis certain que ce faux procès a marqué Pilate. Que voulez-vous que je fasse de cet homme, de la vérité? Crucifie-le. Libère-nous Barabbas, lui le criminel. Ne méritant pas la vie cet homme-là, mais il sera libéré. Et pourtant, Pilate est averti du danger de son mauvais choix. Son épouse a été avertie par un songe. Dieu s'est servi de cette femme païenne, parce que ce n'est pas du hasard que cette femme-là a eu un songe concernant Jésus. Dieu s'est servi de cette femme païenne afin de délivrer un message à son mari, à Pilate. Elle a été troublée par ce songe, mettant en scène Jésus. « Ne participe pas à sa condamnation, cela est trop dangereux pour toi. » Tu dois prendre position, tu es face à ton destin, mon cher mari. Ne reste pas neutre. Nous ne pouvons pas rester neutre par rapport au Jésus. On ne peut pas être suisse. Nous devons prendre position. Ou tu es pour, ou tu es contre, mais pas de neutralité. Jésus disait, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et Pilate était ballotté par ses sentiments propres et par la foule. Que faire? À qui plaire? Et nous verrons à la fin de cette histoire, il s'en lavera les mains. Ce n'est pas moi qui prends cette décision de condamnation. Faites ce que vous voulez, c'est votre affaire. Ce n'est plus la mienne. Je m'en lave les mains. Le sang est versé, le sang innocent est versé, moi je n'y suis pour rien. Là il se trompe parce qu'il n'a pas pris position face à son destin. Il n'a pas pris position, donc il est aussi coupable que les autres. Il n'a pas choisi la vérité, il a choisi la mauvaise voie, la neutralité. Et il en mourra. L'histoire nous dit que Pilate est tombé en disgrâce. Quelque temps après, et qu'il se suicidera. Je suis certain que son procès l'a complètement détruit. Je suis certain que Pilate a été détruit par ça. Lui non plus, pas plus que le jeune homme riche, n'ont pas pu choisir la vérité. Comment nous comportons-nous dans les choix qui sont devant nous, frères et sœurs? Notre destinée est entre nos mains. Suivons les voies de Dieu. Suivons les voies que Dieu nous propose. Dieu nous met souvent face à des choix qui mettent en jeu notre destinée éternelle. Dieu nous dit dans Deutéronome chapitre 30, verset 19, « Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Quelle promesse merveilleuse. Choisissons la vie que Dieu nous propose. Ne nous laissons pas balloter par les circonstances, par la foule, le qu'en dira-t-on, le confort, le bien-être, la vie facile. Faisons, frères et sœurs, les bons choix. Même si ça nous paraît dur parfois, Dieu sera toujours à nos côtés et Dieu honorera notre foi. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons parce que nous avons choisi la vie. Ô Seigneur, aide-nous à ne pas nous rétracter, aide-nous à prendre toujours position pour toi. Que notre destinée soit toujours dans tes mains, Seigneur. Bénis l'Église, Seigneur, car nous traversons des temps difficiles, des temps où il y a beaucoup de choix à faire, des choix parfois difficiles, qui nous freinent parfois, mais nous voulons nous laisser diriger par toi. Oui, Seigneur, viens à notre aide et notre secours. Merci, notre Dieu. Amen.